Que nous, l'Éternel, soit béni. Nous prenons notre première lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 30. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Voilà la remarque que le Seigneur fait aux Juifs, fait au peuple. Il fait une comparaison avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait, les gens venaient à la repentance auprès de lui. Et il était reconnu ouvertement devant le peuple comme étant un véritable serviteur de Dieu. Il était reconnu comme étant un vrai prophète de Dieu. À partir de sa prédication, certainement à partir de sa manière de vivre, il voyait là un véritable serviteur de Dieu. Et le Seigneur dit, mais vous avez été auprès de Jean-Baptiste. Il est venu, vous avez cru en lui. Vous avez cru en son témoignage. Mais voici, moi j'ai un témoignage qui est plus grand que celui de Jean-Baptiste. Et vous refusez de venir à moi. Le Seigneur levait là un point qui manifestait une injustice. Deux serviteurs présents, les deux se réclamant d'être Dieu. Leur témoignage prouvant qu'ils n'étaient pas comme les autres. Mais voici, le peuple va croire un homme, mais refuser de croire l'autre, alors que dans l'autre, les manifestations, le témoignage était beaucoup plus puissant que celui de Jean-Baptiste. Et le Seigneur dit, mais vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'il y a la vie dans ces Écritures. Mais pourtant, vous ne voulez pas venir à moi. Le Seigneur voulait dire par là, mais c'est évident. Les Écritures parlent de moi. Jean-Baptiste lui-même a témoigné de moi. Vous n'avez jamais autrefois entendu parler de la voix de Dieu. Mais souvenons-nous, lorsque le Seigneur a été baptisé, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Il y a eu des manifestations par la venue du Seigneur qui montraient que Jésus-Christ était plus que Jean-Baptiste. Et le Seigneur dit que malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi. Le peuple qui était là faisait preuve de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est lorsque les choses sont établies, lorsque les choses sont claires, sont visibles, mais que l'on refuse de céder, que l'on refuse de croire. Ça nous est déjà arrivé, je pense à tous, d'entrer quelquefois dans des débats, alors que l'évidence est là. Mais la personne, simplement, ne voulant pas avoir tort, voulant être gagnant dans le débat, refuse d'accepter ce que tu dis. Et les pharisiens, les juifs, étaient dans cette configuration-là. Les œuvres, le témoignage, tout ce que le Seigneur faisait, montraient bien qu'il était quelqu'un d'à part, montraient bien qu'il n'était pas comme les autres. Mais malgré cette évidence-là, il ne voulait pas reconnaître que là, c'était le Fils de Dieu. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a fait des miracles, les pharisiens ont dit, mais il fait ça avec la puissance de Satan, par Belzébul. Le Seigneur a dit, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ce péché-là ne sera pas pardonné. Le Seigneur voulait dire que l'évidence était là. Les œuvres que je fais, aucun homme ne peut le faire, si ce n'est Dieu seul. Et les œuvres que je fais témoignent que je suis envoyé de Dieu. Et malgré que les juifs, les pharisiens voyaient ces œuvres-là, ils ont préféré attribuer ces œuvres à Satan que de rendre gloire à Dieu. Ils étaient de mauvaise foi parce que l'évidence était là. Je disais souvent à un frère que ça serait simple pour nous chrétiens d'accepter de débattre quelquefois avec les païens, puisqu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la logique de Dieu. Donc ça serait beaucoup plus normal d'être en débat avec un païen. Mais je disais, mais c'est étonnant de voir que nous sommes obligés de défendre la doctrine auprès même des chrétiens. Eux qui sont censés comprendre la parole de Dieu, puisqu'ils l'ont reçue, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est auprès d'eux que nous luttons le plus pour prouver que la parole de Dieu dit vrai. C'est auprès d'eux qu'il faut parlementer, qu'il faut discuter pour dire que mais la situation dans laquelle tu es ne plaît pas au Seigneur. Et c'est toutes sortes de justifications, toutes sortes d'excuses où on entend « je n'ai pas la conviction ». Où on entend « moi je suis en paix ». Mais la paix et la conviction ne valent rien du tout si elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Celui qui est habitué à voler, il est en paix quand il vole. Il est à l'aise. Mais est-ce qu'il est en accord avec Dieu ? Nous voyons dans le monde des personnes avoir deux ou trois femmes. Et quand ils le sont, ils sont à l'aise. Est-ce que cela est conforme avec la volonté de Dieu? La bonne foi va nous appeler à faire ce qui est juste, à reconnaître ce qui est juste. Comme il est écrit dans Jean 7, 24, jugez selon la justice. La bonne foi, lorsque les choses sont établies, manifestées, nous ne pouvons que nous incliner et reconnaître que c'est ça qui est vrai. Qui va discuter aujourd'hui pour dire que le soleil n'est pas jaune? Qui va discuter aujourd'hui pour dire que le ciel n'est pas bleu? Ce sont des débats dans lesquels on perdrait notre temps. Comment vouloir prouver une évidence que tout le monde voit? Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de discuter, de prouver que la Bible est vraie, de sortir verset sur verset pour convaincre le frère ou la sœur de sortir de telle situation. Et c'est ça qui n'est pas normal, bien-aimé. C'est ça qui n'est pas normal. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous savez qu'il y a la vie dedans. Et malgré tout le témoignage qui a été manifesté en ma faveur, vous refusez de venir à moi. La mauvaise foi. C'est ça, c'est de refuser lorsque l'évidence est claire. Lorsque les choses ont été établies et prouvées, nous cherchons à discuter, à parlementer, simplement pour avoir gain de cause. Un autre passage, Luc chapitre 7. À partir du verset 19. Jean-Baptiste était donc en se prison à ce moment-là. Il en appela deux et les envoya vers Jésus, donc Jean-Baptiste, pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc Jean-Baptiste a été mis en prison alors qu'il avait témoigné, confessé que celui-ci était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, va avoir un moment de faiblesse et va envoyer ses disciples auprès de Jésus pour lui demander, est-ce que tu es vraiment le Messie? Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir? Ou bien, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Au verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors là, le Seigneur met le doigt encore sur autre chose. Si il a soulevé dans les passages que nous avons lus précédemment la mauvaise foi de ceux qui étaient là, qui avaient compris que véritablement celui-ci était le Messie, mais pour avoir gain de cause, pour ne pas refuser à leur honneur devant les hommes, pour ne pas refuser leur titre honorifique devant les hommes de pharisiens, eh bien ils ont préféré nier l'évidence. Et là, Jean-Baptiste va douter. Le Seigneur dit, allez dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent, que les lépreux sont purifiés, que les boiteux marchent, que les aveugles voient. Le Seigneur voulait faire appel tout simplement au bon sens. Le bon sens, c'est ce qui est logique. C'est ce qui est conforme, c'est ce qui doit se faire. Le bon sens, c'est lorsque je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Sortir d'une pièce et laisser toutes les pièces, toutes les lumières allumées, ça c'est faire preuve, je dirais, c'est être insensé. Donc le bon sens, c'est faire ce qui est logique. Je sors dehors, j'ai sali les chaussures, avant d'entrer à la maison, je les essuie. C'est ça le bon sens. Donc il y a comme un calcul logique, je salis, je nettoie. Donc le Seigneur voulait faire comprendre à ces hommes-là, ben, il se pose la question, est-ce que le Messie doit venir? Ben, dites-lui qu'il y a des guérisons, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Donc il y a une suite logique qui doit faire comprendre que finalement ça doit être vraiment le Messie. Puisqu'il y a des miracles que seul Dieu peut faire, comme purifier les lépreux, ressusciter les morts. Donc le Seigneur donne une liste de choses qui sont effectuées afin que par le bon sens, lui-même puisse comprendre, bon, puisque les morts ressuscitent aussi, que les boiteux marchent, donc certainement c'est le Messie. Donc c'était un calcul simple à partir des données que le Seigneur leur avait données. Voici ce qui se passe. Jugez vous-même. Il n'a pas dit, oui, je suis Messie, je vais confirmer. Non, la Bible dit qu'à l'heure même où on lui pose la question, il a opéré des miracles. Donc, pour répondre aux attentes de Jean-Baptiste, le Seigneur a tout simplement agi. Maintenant, à travers son agissement, jugez vous-même. Qu'est-ce que je suis maintenant? Vous m'avez posé la question, voilà ce que j'ai fait. Donc, le bon sens nous amènera tout simplement, non pas par des grandes réflexions, mais tout simplement en voyant ce que nous avons observé, à dire, ben, effectivement, certainement que c'est le Messie, puisque ce qu'il accomplit en ce moment-là, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Et au moment où il l'a décidé, ce n'est pas comme aujourd'hui les guérisons que nous pouvons voir, où nous ne sommes même pas certains. On peut prier et on s'attend à Dieu, mais le Seigneur lui commande à l'instant même. Donc c'est lui qui a l'autorité, qui est au-dessus de tout, pour ordonner à l'instant même. Il n'y a pas besoin de faire une série de jeûnes, une série de prières pour et finalement s'attendre à Dieu. Lui, il ordonne et les choses sont exécutées à l'heure même. Donc il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Et de lui-même, il jugera pour savoir si je suis le Messie ou pas. Si vous devez en attendre encore un autre ou pas. Voici les choses qui ont été faites. Alors notre thème de ce matin, bien-aimé, c'est être de bonne foi et de bon sens. Le bon sens ne relève pas, je dirais, d'une grande intelligence. Être de bon sens, un enfant peut l'être aussi. Comprendre les choses essentielles. Je me suis sali les mains avant d'aller manger, je vais me laver les mains. Ça, c'est le bon sens qu'un enfant peut totalement comprendre. Mais entrer dans des polémiques, dans des discussions pour prouver que nous avons raison, alors que les évidences sont là, ça, c'est la mauvaise foi. Mais nous avons été rachetés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, bien de fois, on a eu du mal à justifier certaines choses. On a quelquefois excusé tout et n'importe quoi parce qu'on mettait tout sur le compte de l'ignorance. Mais Dieu n'a pas créé des êtres bêtes. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu a créé, il y avait des animaux et des êtres humains. Donc il y avait bien une différence entre ceux qui devaient être à l'image de Dieu et ceux qui devaient rester animaux. Dieu ne nous a pas créés avec un cerveau comme les animaux. Et bien souvent, lorsque nous mettons tout sur le compte de l'ignorance, nous enlevons la responsabilité de chacun. Quand bien même il y a des choses que nous ne pouvons pas tout comprendre, des choses que nous ne pouvons pas comprendre dans la profondeur, mais ce qui est essentiel et ce qui est utile pour notre salut et pour notre marche avec le Seigneur ne nous le cachera pas. Donc personne ne peut avoir une excuse pour dire « je n'ai pas compris, je ne comprends pas ». Il y a des personnes qui disent « oui, mais je n'ai pas compris le message d'aujourd'hui ». Bien aimé, la bonne foi et le bon sens nous amènera à comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. Pour quelle raison Dieu parlerait-il à son peuple et que le peuple ne comprenne pas? Dieu veut sauver. Lorsque Dieu parle, c'est pour que nous puissions comprendre. Mais si nous ne comprenons pas, c'est là que nous avons un problème. Peut-être d'orgueil, de manque d'humilité. Nous avons peut-être un problème de distraction. Nous avons peut-être besoin de délivrance. Mais en tout cas, le problème est chez nous. Dieu ne peut pas nous parler pour que sa parole aille dans l'eau. Lui-même, il dit que sa parole ne retourne point à lui sans objectif. Sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli ses desseins. Ça veut dire que dès l'instant où Dieu envoie sa parole, il y a un objectif. Il y a plusieurs épisodes où le Seigneur nous encourage à travailler pour la vie éternelle, à travailler pour ce qui est productif. Il dit, pourquoi travailler pour ceux qui vont périr? Travaillez plutôt pour ceux qui demeurent éternellement. Alors si le Seigneur nous donne cet enseignement, croyons bien aimé que lui ne va pas nous donner des paroles pour que ça soit perdu. Si il nous donne ces paroles, c'est pour un objectif précis, c'est pour que cela porte du fruit. Mais si nous ne saisissons pas, c'est que le problème vient de chez nous. Nous lisons Genèse chapitre 1er. Nous allons lire une liste de versets pour bien comprendre que le Seigneur n'a pas créé des êtres bêtes, mais qu'il nous a créés avec une certaine intelligence. Quand bien même il peut y avoir des choses cachées, Genèse chapitre 2, mais les choses essentielles nous sont révélées, la Bible nous dit, dans Deutéronome 29:29. Les choses essentielles, utiles pour notre salut, nous sont révélées. Ce qui est compliqué appartient à Dieu. Donc lorsque Dieu nous parle d'une manière claire, d'une manière audible, c'est pour que nous puissions comprendre bien son message. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dieu a créé toutes choses. La végétation, il crée l'homme et ensuite le place dans un jardin pour qu'il puisse y travailler. Et le Seigneur va donner un ordre. Voici, il y a un arbre qui est là. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'en mange pas, car si tu le touches, certainement tu mourras. Donc il était question là de la mort spirituelle, puisqu'ils ont mangé de ce fruit-là, mais ils vivaient toujours. Mais cependant, la mort physique est entrée dans le monde, les maladies sont entrées dans le monde, les animaux sont devenus sauvages, les catastrophes naturelles se sont manifestées parce que l'homme avait transgressé le commandement de Dieu. Alors l'arbre dont il était question était un arbre qui ouvrait l'intelligence. Est-ce que l'homme était bête lorsqu'il a été créé? Loin de là. Puisque lorsqu'il a créé Adam, la Bible dit que lorsque Dieu crée les animaux, il a placé là Adam pour que Adam donne des noms à tous les animaux. Donc il y avait déjà une certaine intelligence, une certaine connaissance de Dieu. Mais il y avait un autre niveau dans lequel Dieu voulait préserver l'homme. La connaissance du bien et du mal. Alors bien que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais nous connaissons la suite, que l'homme a péché et a mangé de ce fruit. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils ont eu la connaissance aussi de ce qui était mal à ce moment-là. Donc dès l'instant où ils ont péché, alors que c'était contre la volonté de Dieu, il y a eu quand même une manifestation. C'est que l'homme a atteint encore un autre niveau de connaissance, la connaissance du bien et du mal. Donc dès le livre de la Genèse, l'homme est capable de savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Puisque dès l'instant où les yeux se sont ouverts, ils ont connu qu'ils étaient nus, ce qu'ils ne connaissaient pas autrefois. Ils se sont cachés. Et Dieu dit à Adam, mais pourquoi te caches-tu? Mais Adam dit, mais parce que j'ai eu peur. Donc tout de suite, la connaissance du péché a été manifestée. Et il savait à l'instant même que le Seigneur n'était pas en accord avec l'acte qu'il venait de commettre, puisqu'il a voulu se cacher. Donc l'homme était très loin d'être bête. Et le fait encore d'avoir mangé ce fruit-là, l'a ouvert encore d'autres intelligences, une autre intelligence. Bien-aimé, l'homme, tout homme, est capable de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Avant même que nous soyons enfants de Dieu, on savait déjà ce qui était bien et ce qui était mal. Combien de choses avons-nous fait en cachette? Est-ce que ce qui est mauvais, on le fait en cachette? Ce qu'on fait en cachette, c'est ce qu'on refuse qu'il soit connu des hommes. Parce que c'est peut-être un sujet de honte. Ça sera peut-être un sujet de colère pour les autres. Ça sera peut-être un sujet de condamnation pour la justice. Tout ce qu'on fait en cachette, c'est parce qu'on sait que c'est mauvais. Nous voyons les enfants dès leur jeune âge faire des bêtises. Et dès que tu jettes un regard, il comprend qu'il a mal fait. Qui lui a enseigné ces choses-là? Toutes ces choses, bien aimées, sont déjà dans l'homme. Il y a un niveau de connaissance, peut-être, qu'il n'a pas atteint, mais il y a un niveau de connaissance qui est suffisant pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est dans cette intelligence-là, c'est avec cette intelligence, bien-aimée, que nous utilisons bien souvent pour être de mauvaise foi. Nous savons très bien que ce qui est dit là, c'est ça la vérité. Mais voici, je veux défendre mes intérêts. Je veux défendre mon droit. Je refuse de sortir de cette pièce comme étant perdant, la tête basse. Alors, je vais me battre pour prouver que c'est moi qui ai raison. Bien qu'au fond de moi, je sais que c'est lui qui a raison. Ça, c'est la mauvaise foi. Mais Dieu sait que l'homme a un minimum d'intelligence pour comprendre ce qu'il dit. Souvenons-nous, bien-aimés, lorsque le Seigneur a dit « Celui qui ne mange pas ma chair ne peut pas hériter de la vie éternelle. » Beaucoup sont partis. Le Seigneur a dit aux autres disciples « Mais pourquoi vous ne partez pas ?»« Seigneur, à qui irions-nous ? » C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimés, nous pensons-nous que depuis tout le temps que tous ses disciples étaient avec lui, tous ceux qui sont partis ne connaissaient pas que les paroles de Jésus-Christ étaient esprit et vie. Ils savaient très bien. Et le chemin paraissait peut-être trop long pour eux. Il y a une étape qu'ils ne voulaient pas franchir. Il y a des sacrifices qu'ils ne voulaient pas faire. Alors pour justifier qu'ils ne voulaient pas suivre le Seigneur, ils ont dit « cette parole est trop dure ». Ils ont pris cette parole d'une manière charnelle. Mais le Seigneur ne leur a pas dit « non, revenez, c'est pas ça que je voulais dire ». Le Seigneur savait très bien que ces gens-là avaient un minimum de bon sens pour comprendre véritablement ce qu'il voulait dire. Et il ne les a pas rattrapés. Beaucoup d'hommes se perdent. Et de l'extérieur, quelquefois, nous avons une certaine compassion qui fait de nous comme étant plus bons que Dieu. Une compassion qui nous amène à ne pas comprendre l'amour de Dieu, à ne pas comprendre pourquoi Dieu ne fait rien. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec sagesse. Et il sait, dans le cœur de l'homme, celui qui a bien compris le message, mais qui l'a refusé. Mais le Seigneur sait aussi celui qui a peut-être entendu et qui n'a pas compris. Dieu avait décidé de détruire la ville de Ninive. Il a envoyé Jonas, son prophète, aller proclamer que la ville va être frappée. Lorsque ce peuple s'est repenti, Jonas s'est fâché. Et Dieu a dit à Jonas, « Jonas, tu veux que je détruise ces hommes-là ? Regarde parmi tous ces hommes, une ville de 120 000 hommes. Parmi eux, beaucoup ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. » Jonas ne voyait pas au cœur de ce peuple-là. Mais Dieu savait ceux qui étaient véritablement ignorants, ceux véritablement qui ne connaissaient pas. Et Dieu a dit, mais ils ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Et Dieu a eu compassion de cette ville-là et ne l'a pas frappée. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Mais bien des fois, Dieu a frappé parce qu'il savait que là, ce n'était pas la peine. Combien même les hommes peuvent pleurer, peuvent crier, voir Dieu comme un Dieu qui est trop dur, injuste. Dieu sait que ces hommes-là ont compris ma parole, mais qu'ils l'ont vraiment refusé. Il y a un autre épisode où le Seigneur a prêché ouvertement. Les pharisiens étaient là, ils avaient entendu. La Bible dit qu'il y eut division parmi les pharisiens, parce que certains avaient cru dans le Seigneur. Cependant, ils ne l'ont pas confessé, ils ne l'ont pas reconnu comme Seigneur. La Bible dit qu'ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils ont été de mauvaise foi. Ils n'ont pas voulu renoncer à leurs droits. Ils n'ont pas voulu renoncer à leur autorité. Ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et c'est cette réalité-là, bien-aimée. Beaucoup d'hommes ne veulent pas perdre la face. Alors ils vont parlementer et discuter avec Dieu parce qu'ils préfèrent la gloire des hommes. Ils préfèrent être élevés dans ce monde plutôt que de s'humilier, d'être reconnus devant les hommes comme peut-être être nul, mais d'être qualifiés pour le ciel. Ils préfèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et Dieu dit que ça, c'est un comportement d'insensé. Souvenons-nous de cet homme-là qui a amassé beaucoup dans son grenier. Ses yeux ont pris plaisir à voir cela. Il a dit, mon âme, maintenant tu vas te rassasier. La Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel et il lui a dit, insensé. Tu es insensé, tu ne réfléchis pas. Regarde autour de toi tous ceux qui l'ont fait avant toi. Ils sont où aujourd'hui ? Regarde autour de toi tous ceux qui ont amassé et qui ont voulu être des grands dans ce monde. Ils sont où aujourd'hui ? Fais preuve de bon sens. Fais un calcul simple. Même si tu n'as pas entendu parler de Dieu clairement, mais simplement à partir de ce que tu observes, aie du bon sens et comprends, mais que ça, c'est quelque chose qui est inutile. Bien-aimé, est-ce que nous avons besoin, je dirais, de nous agripper sur les câbles de la SNCF pour comprendre que c'est dangereux pour mourir. Le bon sens même nous fait comprendre que, mais que si je fais ça, je risque de mourir. Et Dieu dit à cet homme-là, mais tu as amassé toutes ces choses. Voici, je vais reprendre ta vie maintenant. Qui va bénéficier de ces choses-là? La Bible nous dit que Dieu lui a dit insensé, une voix lui a dit insensé. Tu ne fais pas preuve de bon sens. Tu as amassé, pourquoi? Dieu voulait lui dire, mais réfléchis 5 minutes. Ce que tu fais, c'est pour qui? Tu penses que tu vas en profiter? Regarde autour de toi, il y a eu beaucoup de riches avant toi. Ils sont où aujourd'hui? Dieu dit insensé. Regarde combien les gens meurent du cancer. Combien de publicités y a-t-il sur le tabac? Et toi, tu continues à fumer. Dieu dit que ça, c'est un comportement insensé. Le bon sens nous amène à comprendre, mais oui, mais je vois que les gens qui fument finissent par mourir et par souffrir. Donc le bon sens va nous amener à dire, mais non, mais je ne peux pas fumer. Puisque si je fume, je vais finir aussi comme eux. On se croit fort en disant, mais non, mais il faut que j'essaie peut-être la drogue. Mais le monde nous le manifeste. S'il y a aujourd'hui des centres où on va faire des cures de désintoxication, c'est bien parce que toutes ces choses-là font souffrir, font du mal. Donc le bon sens même va nous amener à comprendre que non, si je prends cette voie, je risque de finir, puisque toutes ces preuves sont établies. Les choses sont là. Donc le bon sens, ce qui est logique, c'est que je ne fume pas, c'est que je ne touche pas à la drogue, puisque ça ne produit pas de bien. Dieu a dit à cet homme, tu es un insensé. Tu n'as pas su regarder autour de toi, prendre les exemples de la vie pour comprendre que la voie dans laquelle tu te trouves est une voie qui est mauvaise. Ça, c'est le mauvais sens, bien-aimé. Mais nous, nous avons été créés intelligemment, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, Ecclésiastes chapitre 3. Verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu a mis dans tout homme la pensée de l'éternité. Bien que tout ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas tout comprendre. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. Dieu fait des choses extraordinaires, des choses qui nous dépassent. Mais il a quand même mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc l'homme, tel qu'il a été créé, a la capacité d'être attiré vers Dieu, d'être attiré vers tout ce qui est éternel. Or, lorsqu'on parle d'éternité, obligatoirement, on ne peut faire référence qu'à Dieu, puisqu'il n'y a que lui seul qui est éternel. Lorsqu'on parle de la pensée d'éternité, ça ne peut pas se référer à la terre, puisque la terre passera. Donc forcément, ça se réfère à des vertus éternelles, à quelque chose qui ne finira pas. Donc Dieu a mis cette pensée dans le cœur de l'homme, afin que l'homme puisse avoir une pensée, un regard tourné vers quelque chose qui le dépasse. Et ce qui dépasse l'homme n'est rien d'autre que Dieu. Donc l'homme tel qu'il a été créé a un minimum de capacité pour saisir, pour être disposé à entendre et à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi toutes les personnes aujourd'hui qui se braquent en disant que Dieu n'existe pas, en dépensant de l'argent pour prouver que Dieu n'existe pas, en soutenant les théories de l'évolution qui annulent l'existence de Dieu, en réalité, c'est un leurre, c'est faux. Puisque la Bible nous dit clairement que toutes ces personnes-là, dans leur cœur, ont la pensée de l'éternité. Donc l'homme est très très loin d'être bête. Pour dire « je ne comprends pas », pour dire « je ne saisis pas ». Lorsqu'il le manifeste ainsi, c'est qu'il est de mauvais sens, c'est qu'il est insensé et c'est qu'il est de mauvaise foi. La Bible nous dit que lorsque nous regardons la création dans tout son ouvrage, la Bible dit que ça se voit à l'œil nu, que Dieu est Dieu. Ça se voit à l'œil nu que Dieu est l'auteur de toutes choses. C'est-à-dire dès l'instant où l'homme s'humilie, un court instant, pour s'interroger sur ce qui le dépasse, pour s'interroger sur ce que la science ne peut pas expliquer, ce que Dieu a mis au-dedans de lui va se réveiller et lui donner une petite explication qui va l'emmener à chercher Dieu. L'élément déclencheur de ce qui va emmener l'homme vers Dieu, c'est lorsqu'il va s'humilier pour essayer de comprendre ce qui le dépasse. Dieu a créé l'homme avec de l'intelligence. Un autre passage, Jean chapitre 16, verset 8. Nous lisons à partir du verset 7, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Le Seigneur éclaire. Il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra tout le monde. Le Saint-Esprit n'agit pas simplement en faveur des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit agit en faveur de tous les hommes pour les emmener à la repentance. Alors refusez de s'humilier en disant que je ne comprends pas, en disant que j'ai raison, en disant que la Bible n'est pas vraie. Bien-aimé, c'est annuler ce verset-là dans lequel Dieu dit clairement que le Saint-Esprit agira. Le Saint-Esprit cherche à convaincre tout homme et il est en action. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Donc lorsque nous sommes attentifs, lorsque nous nous humilions, le Saint-Esprit nous convaincra. Je discutais un jour avec une personne qui disait, mais je ne comprends pas. Comment il y a tant de serviteurs qui sont dans le faux et qui vont, quelquefois ils en meurent. Ils meurent dans la fausseté. Mais vraiment, est-ce que Dieu fait tout pour les ramener? Dieu fait tout pour les racheter? Pourquoi ils demeurent dans cette erreur? Il y a une époque, je m'étais aussi posé cette question-là. Et la réponse que le Seigneur m'avait donnée se trouve dans le psaume 51, dans le psaume 32. Le Seigneur, c'est David qui parle. Il dit que tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Tant que je me suis tu. Et il va dire, Seigneur, j'ai avoué ma transgression. Et Dieu l'a libéré. J'ai compris par là, bien-aimé, que lorsque un homme est dans l'erreur, le Saint-Esprit va le tourmenter jusqu'à ce qu'il se repente. David disait que tant que je ne confessais pas, tant que c'était au-dedans de moi, je ne vivais plus. Je n'étais plus tranquille. Donc l'action du Saint-Esprit dans sa vie le dérangeait à tel point qu'il était obligé de confesser pour recevoir la délivrance de Dieu. Donc tout homme qui résiste au Saint-Esprit en réalité est tourmenté et dérangé. Il n'est pas à l'aise. Lorsque nous péchons, nous sommes dérangés. Nous avons quelquefois un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte. Il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous dit que là, je ne vis plus. Je ne suis plus à l'aise. Cette vie ne me va pas. David disait cela et il a dit, lorsque j'ai confessé mon péché, tout a changé. Donc le Saint-Esprit agit pour convaincre l'homme. Le Saint-Esprit est une réalité. Dieu aime l'homme et veut que l'homme se repente de ses mauvaises voies. Donc, tant qu'un homme ne confesse pas, Dieu va faire le travail jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour pour le convaincre que là, tu es dans l'erreur. Le voleur à la croix, bien-aimé, s'est repenti, peut-être 1 heure, 2 heures avant sa mort. Le Seigneur a fait son travail jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le Seigneur n'a pas lâché. Jusqu'au bout, le Seigneur savait que cet homme pouvait se repentir. Même à la croix, alors qu'il était condamné de tous les hommes, condamné à mort. Le Seigneur savait que même condamné à mort par les hommes, il y a encore quelque chose en lui qui peut l'emmener à croire que celui qui est à côté là, c'est vraiment le Messie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. C'est une réalité. Ceux qui sont de mauvaise foi, bien-aimés, la mauvaise foi est liée au mensonge. Parce que l'évidence est là, mais on ne l'accepte pas. C'est lié au mensonge. Donc ceux qui sont dans le mensonge, c'est que ils luttent contre Dieu. Le Seigneur est clair, il dit que le Saint-Esprit convaincra le monde. Personne ne peut dire que je n'ai pas été interpellé par le Saint-Esprit. Bien-aimés, ne nous justifions pas en disant je n'ai pas la conviction. Il n'y a pas besoin d'avoir de conviction lorsque les choses sont écrites dans la parole de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. On a dit à Pilate, enlève ce que tu as écrit là-bas, roi des Juifs. Il a dit, ce qui est écrit. C'est écrit qu'il est le roi des Juifs et ça restera. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit dans la parole. Bien-aimé, je ne demande pas que tu puisses débattre avec moi. Même si tu peux me trouver tous les défauts que tu veux. Mais si tu reconnais que ce que je dis est dans la parole de Dieu, applique à cause de Dieu. Ne sois pas de mauvaise foi parce que tu te dis que si j'applique, c'est lui donner raison à lui. Non, nous, on doit donner raison à la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent discuter quelquefois. Je le dis, c'est la vérité, bien-aimé. Il y a des gens quelquefois qui discutent. Ils viennent voir le pasteur pour avoir un conseil, mais le conseil qu'on donne, ça entre dans des débats maintenant. La question, ce n'est pas que ce que tu as me reproché. La question, c'est est-ce que ce qui est dit est juste ou pas? Si tu reconnais que c'est dans la Bible, sois de bonne foi. Même si c'est le plus grand des voleurs, des plus grands des brigands qui te reprend. Mais si tu reconnais que ce qui est sorti de sa bouche est conforme à la parole de Dieu, sois de bonne foi. Et reconnais que ce qui a été dit est vrai. Ce qui a été dit est vrai. La Bible nous dit que le Seigneur n'était pas fait de manière à attirer les regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le Seigneur a dit, mais ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon la justice. Même si je ne suis pas beau à vos yeux, même si je ne suis pas habillé comme peut-être vous l'attendiez, mais reconnaissez que ce qui est dit et ce qui est fait vient de Dieu. Le Seigneur a dit un jour aux Juifs, mais même si vous ne croyez pas en moi, tel que vous me voyez, vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause de ses œuvres. Jugez selon la justice par rapport à ce qui est fait, par rapport à ce qui est dit. Vous sondez les Écritures, mais reconnaissez que ça, c'est de Dieu. Même si moi, vous ne m'aimez pas, mais acceptez au moins à cause de ses œuvres. Soyons de bonne foi, bien-aimés. Soyons de bon sens. Ce que nous ne comprenons pas, laissons ça à Dieu. Mais ce que nous avons compris, soyons de bonne foi pour nous humilier et de dire que c'est ça qui est vrai. De dire que c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas parce que le frère ou la sœur t'a déçu un jour que lorsque tu entendras un conseil sortir de sa bouche, que tu vas le balayer du revers. Il y a des personnes, s'il a un problème avec celui qui va prêcher, peut-être il avait été absent, il ne va même pas chercher à écouter la prédication parce qu'il a un problème personnel. La bonne foi, bien-aimée, nous ouvre les yeux sur ce qui est juste. L'apôtre Paul dit, mais nous bénissons le Seigneur parce que vous avez reçu la parole, non pas comme celle venant d'un homme, mais comme celle venant de Dieu. Et cette parole va agir en vous qui croyez. Parce que vous ne l'avez pas reçue venant d'un homme, mais vous l'avez reçue venant de Dieu. C'est ça la bonne foi. La bonne foi va nous appeler à regarder d'abord à l'intérêt du Seigneur. Va nous appeler à regarder à ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu. Combien même la parole, la manière dont ça a été dit. Ah, il a prêché avec colère. Ah, il a prêché, il a pleuré. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui a été dit. Si tu as dit Amen, alors applique-le dans ta vie. Lorsqu'il prêchait, tu as dit Amen, alors applique-le dans ta vie. Tite chapitre 3. chapitre 3, verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Nous étions autrefois insensés, et c'est une réalité. L'apôtre le confirme, nous l'étions. Mais il dit, c'était autrefois. Désormais, tout a changé. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Nous avons vécu la bonté de Dieu. Donc, les choses ont réellement changé. Ne marchons plus comme des insensés en disant, je ne comprends pas. En disant, je ne savais pas. En disant, je suis en paix, alors que bien que je suis dans le péché. En disant, je n'ai pas la conviction, alors que c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit que c'est autrefois que nous étions insensés. Dieu a fait de nous des hommes de bon sens, qui sont capables plus qu'autrefois de réfléchir et de discerner entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous pouvons nous justifier de toutes sortes de manières pour dire que si j'agis ainsi, c'est parce qu'il m'a fait du mal. Si j'agis ainsi, c'est parce que j'ai trop souffert. Ça ne changera jamais, bien-aimé, Matthieu chapitre 5. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Toutes les excuses qu'on peut dire, bien-aimé, ne changera jamais l'écriture de la parole de Dieu. Et la bonne foi nous amènera à dire, Seigneur, c'est vrai que dans mon cœur, j'ai ce sentiment-là. Mais je reconnais que c'est ta parole qui est vraie. Alors, Seigneur, aide-moi. Parce que ma nature veut me pousser à me justifier dans cette position-là. Mais la réalité, je connais, c'est celle qui est dans ta parole. Et la bonne foi va nous amener à nous humilier et à comprendre que c'est Dieu qui a raison. Combien même bien-aimés, comme c'est souvent le cas, des faux frères qui nous soutiennent dans le mal, qui nous excusent dans le mal, c'est pas ça l'amour. La Bible nous dit que l'amour se réjouit de la vérité. Quelqu'un qui te soutient parce qu'on t'a dit la vérité en face, qui dit non mais non, laisse-le lui de manière toujours comme ça, toutes sortes d'excuses pour te maintenir dans un péché, bien-aimé, ça, c'est pas l'amour. Et ce ne sont pas des relations que Dieu veut pour un homme. Dans 2 Corinthiens 5, 16, le Seigneur dit que si autrefois nous avons connu dans la chair, désormais nous ne sommes plus dans la chair, mais nous connaissons dans l'esprit. Nous ne pouvons pas nous contenter, bien-aimé, des amitiés charnelles. La véritable amitié, le véritable amour dans le Seigneur, c'est un amour qui se réjouit de la vérité. Nous maintenir dans le mensonge, nous soutenir ensemble dans nos fautes, bien-aimé, ça, c'est pas ça l'amour. Le véritable amour, c'est celui qui est fondé sur la parole de Dieu. Mais cela, on ne peut le vivre que par la bonne foi. Parce que nous sommes dans un monde où nous vivons que des déceptions. Nous sommes dans un monde où nous vivons des violences, des injustices. Mais c'est la bonne foi qui nous aidera à nous maintenir dans la vérité. Combien même je peux aujourd'hui me justifier, je peux me faire justice par moi-même. Mais je sais que c'est la Bible qui a raison. La bonne foi va m'amener à m'humilier. Le bon sens va me rappeler, mais que beaucoup se sont fait justice avant moi, mais ils ont fini où aujourd'hui? Beaucoup l'ont fait avant moi, mais qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? En se faisant justice, en marchant par la chair, mais ils sont retenus dans le monde. Ils vivent aujourd'hui pire que des païens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Le bon sens nous ouvrira les yeux et à faire le bon raisonnement. Le bon sens, c'est aussi le bon raisonnement. De faire le bon calcul et d'en sortir le bon résultat. C'est ça le bon sens. Et Dieu a fait de nous des êtres de bon sens. L'apôtre le confirme, nous étions autrefois insensés. Mais lorsqu'on dit autrefois bien-aimés, on fait référence au passé. Mais aujourd'hui, nous avons été régénérés et nous sommes des nouvelles créatures, capables de comprendre ce que Dieu nous révèle par la puissance du Saint-Esprit. Ne fuyons pas, bien-aimés, la vérité. C'est la vérité qui sauve. 1 Jean 5, verset 20. La Bible dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes très loin d'être bêtes, bien-aimés. Mais souvent, nous jouons aux bêtes pour notre propre intérêt. Nous faisons semblant, ah ben j'avais pas vu, ah ben j'avais pas compris, pour notre propre intérêt. Le Seigneur est clair, nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ est aussi la parole vivante. Nous sommes dans le véritable, dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Ne soyons pas de mauvaise foi, bien-aimés. Ne nous justifions pas sur les sentiments que nos cœurs peuvent manifester. La paix que nous avons n'est pas la véritable paix si les actes que nous posons ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous pouvons faire et dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons débattre, bien-aimés. La question, c'est ce qui est juste. Bien souvent, nous avons pris des décisions, nous avons pris des positions à partir de ce que nous entendons les uns sur les autres. Le bon sens va nous amener, bien-aimés, à vérifier. On me dit telle chose et telle chose sur telle personne. Mais moi, dans sa manière de vivre, je vois le contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien même la personne peut être la plus grande des hypocrites. La Bible nous demande à nous de juger selon les fruits. On peut accuser l'un ou l'autre, il est comme ci, il est comme ça. Mais tant que toi, personnellement, tu n'as pas vu ces fruits être manifestés, bien-aimés, ne prends pas une position. Jugeons ce qui est, selon ce qui est juste. Le bon sens va nous amener à essayer de comprendre. Mais lui, il me dit une chose, mais ce que moi j'observe est le contraire. Comment prendre une position sur deux choses contradictoires entre ce que j'entends et ce que je vois? Il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait concordance entre ce qui est dit et ce qui est vu pour que je puisse avoir une position. Mais ce qu'on me dit sur le frère ou sur la soeur, moi j'observe tout le contraire. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui prennent même des positions. Vous savez combien de personnes quittent les églises parce qu'ils ont entendu des critiques sur leur pasteur? Simplement. Sans aucune démarche de vérifier. Un jour, il y a une personne qui m'appelle, qui me dit, bah, écoute pasteur, voilà, donc désormais, je ne viendrai plus. Je sors du travail de l'église parce que bon, j'ai ça à cœur. Et puis bon, j'ai entendu des choses sur vous, mais je n'ai pas envie d'en parler. Alors avant moi, une personne à qui c'était confié lui a dit, mais fais la démarche, va voir les responsables. Tu as entendu quelque chose sur eux, mais va demander, va te renseigner. Et lorsqu'il m'appelle, il me dit catégoriquement, j'ai entendu des choses sur vous, mais je ne vais pas en parler. Ça, c'est la mauvaise foi qui cache en réalité d'autres motivations pour partir. La motivation, ce n'est pas le pasteur. Combien même il est passé sans te saluer. Tu vas le voir, il te demande pardon et c'est fini. Ce n'est même pas par rapport à des questions de vérité. C'est tout simplement la mauvaise foi qui fait que j'entends quelque chose, mais je ne vérifie pas. Parce que si je vérifie et que ça s'avère être le contraire, finalement je n'ai plus d'excuse. Alors pour me maintenir dans une excuse, je sors cette position-là et je prends ma propre position. Ça, c'est la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, bien-aimé, ne produit pas la vie. La mauvaise foi est liée à l'hypocrisie. On fait semblant de ne pas comprendre, alors qu'en réalité, on sait très bien que ça, c'est faux. On sait très bien que la réalité, ce n'est pas ça. Juger selon la justice. Dans la Bible même, il était dit que avant de condamner un homme, il faut qu'il y ait la déposition au moins de trois personnes. On ne peut pas tenir compte d'une chose qui est dite. Et encore aujourd'hui, on voit toutes sortes de complots qui se font, même par deux, trois personnes. Il y a des rois qui ne s'entendaient pas. Mais le jour où il a fallu juger Jésus-Christ, tous se sont entendus. Les Sadducéens, les Pharisiens, les Hérodiens, tous ne s'entendaient pas. Mais comme ils avaient un problème en commun, ils se sont associés. Et aujourd'hui, ça se fait encore. Mais la Bible nous demande, nous, de juger selon la justice. Toutes les accusations que nous pouvons entendre, bien-aimés, tant que les fruits ne sont pas manifestés, il n'y a pas de position à prendre. Il y a des personnes qui disent, mais telle personne est mauvaise. Pasteur, pourquoi tu le laisses travailler dans les équipes? Mais les fruits qu'il manifeste sont les fruits d'un chrétien. Toi, tu as observé quelque chose, mais moi, j'observe autre chose. Comment je vais prendre une position simplement sur ce que toi, tu dis? La logique veut qu'il y ait des fruits qui nous permettent de prendre une position. Mais voici, il n'y a aucun fruit. Donc, on n'a pas à prendre de position. Ça, c'est un comportement injuste. Combien aujourd'hui, il y a des gens qui sont divisés? Il a un problème avec le frère, mais le frère ne sait pas pourquoi. Il aurait appris que tel a dit ceci, tel a dit cela. Au lieu d'aller vérifier, il prend une position, le visage fermé, parce qu'il aurait appris. Ça, c'est un comportement insensé. C'est un comportement insensé. La Bible est claire, nous avons reçu l'intelligence pour comprendre ce qui est vrai. Maintenant, il est vrai que dans toutes ces choses que nous exposons ce matin, tout cela reste des choix, bien-aimés. Ça reste des choix. On ne peut pas parlementer et discuter pendant des heures devant tout ce qui est évident. Alors, lorsqu'on parle de bonne foi et de bon sens, cela fait appel à la sincérité et à l'honnêteté. Dieu sonde le cœur et le rein. Nous pouvons nous mentir les uns aux autres très facilement, mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Souvenons-nous lorsque Moïse parle au peuple dans Deutéronome 8. Il dit, vous allez entrer maintenant dans la terre que Dieu avait juré de donner. Une terre où coule le lait et le miel. Moïse dit, souvenez-vous le chemin que vous avez passé dans le désert, 40 ans dans le désert. Mais Moïse va dire une chose au peuple. Malgré que ça a été difficile, que ça a été dur, il dit, reconnais dans ton cœur. Reconnais dans ton cœur que ton soulier ne s'est pas usé. Reconnais dans ton cœur, tu as mangé même ce que tes pères n'avaient pas connu. Reconnais dans ton cœur. Combien même les événements extérieurs peuvent paraître compliqués et difficiles. Tu ne saisis pas tout. Mais être de bonne foi, bien-aimé, demandera de nous que nous soyons sincères. Même si tu as indifférent avec la personne, reconnais quand même dans ton cœur. Sois sincère et accepte que ce qui a été dit est vrai. Accepte que le conseil qu'il t'a donné est bon. Reconnais dans ton cœur. La sincérité, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que nous allons nous apprendre les uns et aux autres. C'est un choix, tout simplement. Le choix d'être sincère. Ce qui est vrai, reconnaissons que c'est vrai. Ce qui est faux, reconnaissons que c'est faux et dénonçons-le. Ce n'est pas parce que dans une prédication, ton péché a été pointé du doigt que tu dois remettre tout en cause. Comme nous l'entendons, bien-aimé. Il y a des bien-aimés qui avaient demandé que l'on puisse prier pour eux. Ils voulaient que l'on prie pour eux. Non, ce n'est pas ça. Ils voulaient que l'on prie pour leurs enfants. Alors, Dieu aime les enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Maintenant, dans notre procédure, on a dit, écoutez, nous, on n'a pas de problème, on veut bien bénir l'enfant. Cependant, vous êtes dans le péché puisque vous n'êtes pas mariés. Donc, on peut bien prier pour l'enfant, mais on priera dans le bureau. Non, il faut que nous, on passe devant. Mais pour le témoignage, ce n'est pas bon, parce qu'en vous laissant passer devant, c'est comme si nous, on donne l'approbation à votre situation. Il n'y a pas de problème avec l'enfant, mais il y a un problème avec votre témoignage. Et pour le bon témoignage, vous ne pouvez pas passer devant les saints afin que l'on bénisse l'enfant. Il n'y a pas de procédure dans la Bible qui demande que l'enfant soit béni en présence de toute l'assemblée. Nous allons le bénir à côté. Les gens, au lieu de demander des explications, bien qu'on en avait donné, bien aimé, ont entendu toutes sortes de critiques. Ils refusent de prier pour l'enfant. Toutes sortes de critiques, toutes sortes de choses. Ça, c'est la mauvaise foi. La bonne foi devait amener ces personnes à dire, mais vraiment, il y a quand même un acte de vérité qui est là. Donc, bien que ça nous fait mal, Mais on va quand même accepter, car le plus important, c'est que l'enfant soit présenté à Dieu. Que ça soit à la maison, que ça soit dans le bureau, que ça soit dans le salon, Dieu est partout. Dieu entend tout, Dieu voit tout. Donc là où nous sommes, là où nous voulons présenter l'enfant, même à l'hôpital, nous croyons que Dieu bénira cet enfant-là. Mais la mauvaise foi a annulé tout ce qui était vrai. De mauvaise foi, on a annulé toute la vérité. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimé, d'annuler toute la vérité, puisque c'est la vérité qui sauve. En annulant la vérité, c'est comme si tu te retrouves dans la mer et que tu balances ta bouée de sauvetage en plein noir. C'est comme si tu te préparais au suicide. C'est comme une mort à petit feu. Enlever la vérité, c'est se jeter dans le vide, sans parachute. Nous devons faire preuve de sincérité. Reconnais dans ton cœur ce qui est juste. Reconnais dans ton cœur, même si ça fait mal. Mais tu reconnais quand même que c'est juste. L'apôtre Paul va écrire 2 lettres aux Corinthiens. Dans l'église de Corinthe, il y a eu pas mal de désordres, au point même que une âme avait pris pour femme la femme de son père. L'église de Corinthe manifestait toutes sortes de dons spirituels, ce qui avait emmené beaucoup d'orgueil, ce qui avait amené beaucoup de contestations. L'apôtre Paul va les écrire. Ils avaient mis l'amour de côté. Ils vivaient de leur liberté sans tenir compte des uns et des autres. Alors combien même tu n'aimes pas telle chose, mais après tout je suis libre, moi je le fais quand même si tu es présent. L'amour voulait que le frère n'ait pas à l'aise dans cette situation-là. Donc j'attendrai qu'il parte et puis peut-être que je vais manger, comme certains peut-être aiment, manger des chenilles, d'autres aiment manger des escargots, des huîtres, en fonction des cultures. Et bien chacun des fois a ses plats, des fois qui ne plaît pas à l'autre. Alors, mais puisque l'autre n'aime pas manger ça, bon, c'est pas grave, je vais cuisiner une autre fois. Aujourd'hui, je vais cuisiner ce qu'il aime. Donc, ils faisaient de leur liberté ce qu'ils voulaient, sans tenir compte des uns et des autres. Et l'apôtre Paul va dire, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas explicites dans la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas écrites clairement, pour que nous puissions comprendre que Dieu est contre ça. On ne verra pas dans la Bible où c'est écrit « Ne portez pas de mini-jupe ». Mais il y a quand même un vocabulaire utilisé qui nous montre qu'on doit être habillé de manière décente. Donc il n'y a pas dans la Bible où c'est écrit « Ne fumez pas ». Mais l'intelligence, le bon sens et la lecture de la parole de Dieu dans son ensemble nous font comprendre que Dieu tient compte du corps et que Dieu ne veut pas que le corps soit détruit. Si les païens ont compris que fumer tue, alors à combien pour cette raison un enfant de Dieu doit s'en abstenir? Le Seigneur dit dans Matthieu 5, 20 que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens qui étaient contre Jésus, mais qui étaient reconnus comme étant pieux auprès du peuple, Dieu dit que si vous n'êtes pas plus juste que eux, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ce que les païens ont compris, les chrétiens veulent fermer l'oreille là-dessus. Paul dit, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le bon sens et la bonne foi doivent nous appeler à être matures. La maturité nous fera comprendre ce que Paul veut dire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que je discerne. Bien que la Bible ne m'interdit pas de faire telle chose-là, mais la maturité va me faire comprendre que si je le fais aujourd'hui, ça peut déranger mon frère. Si je le fais aujourd'hui, ça peut nuire à l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que des chrétiens ne font pas, non pas parce que c'est interdit. Ils ne le font pas simplement pour ne pas tendre la perche à certains contradicteurs, à certains païens qui pourraient utiliser ça. Il y a par exemple des chrétiens qui ont fait le choix de ne pas boire d'alcool. Mais bibliquement, on ne trouvera aucun verset où Dieu dit que boire de l'alcool, c'est un péché. Mais le bon sens, en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, au milieu des païens, te poussera à faire la différence, à faire preuve de maturité. pour dire que même si ce n'est pas interdit, mais si je bois au milieu d'eux, dans ce contexte-là, ils risquent de l'interpréter et de l'utiliser pour en faire une mauvaise publicité et pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc la maturité va m'amener à dire, oui, mais ça m'est permis de boire, mais sur le moment, ça ne m'est pas utile. Donc je renonce. Là-dessus, bien-aimé, on ne va pas discuter longtemps. On a entendu des débats récemment sur la question, mais on peut écouter du Johnny Hallyday, on peut écouter Michael Jackson. Il n'y a rien de mauvais pour un chrétien. Certains chrétiens ont cette position-là. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas écouter la musique du monde. Mais la bonne foi et le bon sens, bien-aimé, nous emmènent à raisonner comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc en entendant la parole de Dieu que notre foi est fortifiée. Mais si j'entends, je m'expose à écouter de mauvaises choses qui ne sont pas rendues gloire à Dieu. Des choses quelquefois insensées, où on prône la richesse, où on prône le libertinage. Mais si je m'expose à écouter ça, qu'est-ce que ça va produire dans ma vie spirituelle? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La maturité nous emmènera, bien-aimés, à faire des choix de bon sens et de bonne foi. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas obligé, ce n'est pas interdit. Mais je comprends que ça ne m'est pas utile pour aujourd'hui. Ça ne m'est pas utile. Il y a un journaliste chrétien qui avait dit, les gens disent que les publicités, les films, les mauvaises images, ce qu'on entend, bon, il n'y en a pas vraiment d'influence. Alors lui, il a fait le raisonnement suivant. Il dit, mais comment ces gens-là qui disent ce n'est rien du tout, d'entendre ou d'écouter ce qui est mauvais, ce n'est pas grave. Il dit, comment ces gens-là qui disent ça investissent des milliards dans la publicité? Mais c'est qu'ils sont conscients que la publicité a un impact très fort dans la vie d'un homme. Par le visuel et par ce qu'il va entendre, on choisit la musique, on choisit les images. Et souvent, lorsqu'on regarde la télévision, un programme, dès que c'est la publicité, le son augmente tout seul. Donc, il y a une manipulation qui est là, qui nous fait comprendre, mais que si ces gens-là font ça, c'est qu'ils savent qu'il y a un impact très fort dans la vie d'un homme. Alors, si nous comprenons toutes ces choses-là, nous faisons preuve de bon sens, alors nous serons aussi de bonne foi pour dire que ce n'est pas écrit, mais je sais que c'est dangereux pour moi. Je sais que ça peut être nuisible pour moi, donc je préfère m'en abstenir. L'apôtre Paul a dit ça aux Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Jugez vous-même selon ce qui est bon, selon ce qui est juste, afin que nous ne passions plus du temps, bien-aimés, dans les polémiques et dans les débats inutiles. L'homme, Dieu l'a créé intelligemment. Et il y a des gens qui viennent au débat très intelligemment aussi. Il y a des discussions où tu sais déjà que la personne veut commencer à débattre avec toi, parlementer. Bien-aimé, c'est mieux de fuir. Même si on dira que tu as perdu le débat, tu as perdu le débat, mais au moins tu as accompli la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit à Tite et à Timothée, évite les discussions folles, les généalogies qui ne font naître que des querelles, qui ne produisent rien du tout. Il y a beaucoup de discussions qui ne produisent rien du tout, parce qu'on sait que là, telle personne est de mauvaise foi. La réalité, c'est qu'il a bien compris. Mais il veut débattre pour débattre, il veut parler pour parler, et ça, c'est une perte de temps qui ne produit aucun fruit pour l'œuvre de Dieu. Soyons de bonne foi et de bon sens, bien-aimés. Soyons sincères, soyons matures. Soyons tout simplement honnêtes en reconnaissant ce qui est vrai. En reconnaissant ce qui est vrai. Nous souvenons de l'épisode de le jeune homme riche qui avait beaucoup de biens. Il disait pratiquer la parole depuis son enfance. Tous les commandements que le Seigneur lui a cités, il a dit, je les accomplis depuis mon enfance. Le Seigneur lui a dit, alors il te reste une seule chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Ce que le Seigneur voulait lui dire tout simplement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur, lorsqu'il parle à cet homme-là, n'est pas entré dans les profondeurs de la parole. Il n'est pas entré dans les longues explications pour lui faire comprendre ce qu'il voulait dire. La Bible dit que le jeune homme riche s'en est retourné tout triste. Il n'a pas discuté longtemps lui non plus. Lorsque le Seigneur lui a dit « Vends tout tes biens et suis-moi », il avait très bien compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Alors bien qu'il a rejeté l'appel du Seigneur, je dirais qu'il a fait preuve de bonne foi parce qu'il ne s'est pas justifié. Il n'a pas cherché à parlementer avec le Seigneur pour vouloir justifier que tous ses biens peut-être lui avaient été donnés de Dieu ou quoi que ce soit. La Bible dit qu'il a fait un choix. Il s'en est allé tout triste. La bonne foi, bien-aimé, nous poussera à faire des choix. À être honnête. De dire, Seigneur, pour le moment, je n'ai pas envie de te suivre. Voilà, soyons de bonne foi, soyons honnêtes et soyons clairs vis-à-vis de Dieu. Seigneur, pour le moment, je ne veux pas te suivre. Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Alors, soyons l'un ou l'autre. Dieu dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. La bonne foi et le bon sens vont nous pousser, bien-aimés, à faire un choix définitif. Sans nous justifier, sans vouloir parlementer. Ce jeune homme riche-là n'a pas discuté longtemps. Nicodème, lorsqu'il est venu voir le Seigneur, n'a pas discuté longtemps. Il a été de bon sens, Nicodème. Il a simplement dit, Seigneur, je vois les œuvres que tu fais, personne ne peut le faire s'il n'est avec Dieu. Donc, il a raisonné, il a observé, il a vu que ce qui se faisait là, non, ça ne peut être que de Dieu. Il a été de bon sens. Donc, pour lui, c'était logique que d'après ce qu'il avait observé et entendu, cela ne pouvait venir que de Dieu. Il s'est humilié. Bien qu'il soit venu dans le secret, mais il s'est humilié. Bien-aimés, soyons de bon sens et de bonne foi. Nous avons reçu l'intelligence. Dieu ne nous a pas créés comme des animaux, mais il nous a créés avec une intelligence qui nous permet aujourd'hui de faire un bon raisonnement et de nous humilier quand il le faut. Amen. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que nous croyons dans ta parole, Seigneur. Nous croyons que c'est ta parole qui dit vrai. Combien même, Seigneur de gloire, la chair veut combattre. La chair veut aller à l'encontre de ce qui est vrai. Seigneur, nous nous humilions pour confesser que c'est ta parole qui est vraie. Seigneur, bien souvent, nous nous sommes basés sur des traditions. Nous avons voulu justifier nos compromis, Seigneur de gloire, en disant quelquefois, mais il est écrit, honneur ton père et ta mère. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur de gloire, ces versets ne sont valables que si ils sont appliqués dans l'esprit de ta parole. Et nous avons voulu nous justifier pour cacher nos transgressions, pour ne pas les avouer ouvertement, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, entrer dans des longues discussions, dans des comparaisons les uns envers les autres. Mais nous voulons, Seigneur de gloire, nous soumettre les uns aux autres afin de reconnaître, Seigneur, que ce qui sort de la bouche des uns et des autres, si cela est conforme à ta parole de Dieu, alors tout simplement que nous puissions nous humilier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à considérer ta parole plus que tout. Aide-nous, Seigneur de gloire, à juger selon ta parole, Seigneur. Comme Paul l'a dit même aux Corinthiens, il n'y a donc parmi vous aucun homme qui soit capable de juger. Et je le dis à votre honte. Oui, Seigneur de gloire, c'était à leur honte, Seigneur, parce que tu avais donné la capacité aux hommes de discerner entre ce qui est bien et tout ce qui était mauvais. Et aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous sommes aussi dans cette configuration-là, où nous sommes des êtres créés à ton image. Et encore, Seigneur de gloire, tu nous as régénérés, renouvelés par ton Esprit Saint. Alors, plus qu'autrefois encore aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons comprendre ce qui est conforme à la bonne foi et au bon sens. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, une fois de plus, nous venons nous abandonner entre tes mains, afin que ta volonté soit parfaite en nous, Seigneur. Libère-nous de toute forme de faux raisonnement. Libère-nous, Seigneur, de toute forme d'incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, que ton Esprit Saint nous remplisse, éternel, afin de nous renouveler encore ce matin, de renouveler notre intelligence, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que celui qui a soif, Seigneur de gloire, tu lui donneras de l'eau vive, Seigneur. Seigneur, nous avons soif de cette eau ce matin, de cette eau vive, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être remplis, inondés par ton Esprit Saint, afin de faire mourir tous les raisonnements liés à la chair, Seigneur, les raisonnements liés à l'incrédulité. Il n'y a aucun homme, Seigneur de gloire, qui a raison dans ce monde. La véritable raison se trouve dans ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que des fleuves d'eau vive, Seigneur de gloire, nous remplissent ce matin, Seigneur, comme tu as déclaré dans ta parole, que tu ne refuseras pas le Saint-Esprit à celui qui te le demande, Seigneur. Et c'est là notre prière, Seigneur de gloire. Viens nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur, afin de nous libérer, Seigneur de gloire, de toute forme de doute, de toute forme de raisonnement, Seigneur, afin de nous libérer, Seigneur Dieu de gloire, de toute forme de peur, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur de gloire, de vivre ta parole totalement, dans le nom de Jésus. Libère-nous, Seigneur de gloire, parce que bien souvent nous avons été insensés, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à vivre ta parole, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous te prions, Seigneur de gloire, parce que tu as dit que tout ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, alors nous avons la chose, quelle qu'elle soit. Seigneur, nous croyons que tu entends nos prières, Seigneur de gloire, et qu'au temps convenable, tu nous exauces, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus.